Heureuses celles et ceux qui ont l'affranchi comme librairie.
Tout ce qu'on crée, c'est une réponse à la violence.
Il faut pouvoir occuper l'espace.
L'évolution qu'on est en train de vivre.
L'archive, c'est notre mémoire.
Ce corps qui ne savait pas courir et l'avait empêché de participer aux actions directes de la résistance. Ce corps qu'il fallait sans cesse reposer, soigner, nourrir. Il était devenu son seul compagnon. Pour ce nouvel épisode de l'Affranchi Podcast, nous recevons Lorraine Bastide à l'occasion de la publication de sa novella 2060 dans la collection Nouvelle Lune des éditions Au Diable Vauvert. C'est parti. Bonsoir Lorraine.
Bonsoir Swazik.
Bienvenue à la librairie à l'occasion de la publication de ta première nouvelle, donc ta première œuvre de fiction qui s'appelle donc 2060 et qui est publiée dans la superbe collection Nouvelle Lune des éditions Au Diable Vauvert. Bravo.
Merci.
Mais non, mais nous, on avait l'habitude de te recevoir pour des essais, on a l'habitude de t'entendre en tant que journaliste, et ici, tu t'es attaquée à la fiction, comme ça, sans rien dire, sans prévenir.
Ouais.
En tout cas, moi, je le savais pas.
Non, un petit peu malgré moi, en vrai. Ce livre, je l'ai écrit de façon un peu cachée, ouais, c'est vrai. Dans un petit carnet à la main, en parallèle de Futur, qui est donc l'essai que j'ai sorti chez Alary à, je sais plus, j'ai perdu le fil il y a un an, je crois bien. Et en fait, bah, c'est Élise Thiébaud qui est donc qui a créé cette collection Nouvelle Lune, qui est une collection qui a vocation à publier des textes assez courts, écoféministes, queer, enfin avec toutes les idées que nous portons. Et que vous portez aussi, j'en suis certaine, sinon vous ne seriez pas là. et qui m'a poussée à le publier. Ça a été un travail de longue haleine, hein, pour me convaincre, parce que j'étais vraiment pas convaincue de ma légitimité en fiction. Mais ça y est, maintenant, c'est bon.
Ça y est, ouais, ça y est. C'est parti, en fait. C'est ça que
ouais.
Tu nous dis.
Ouais, c'est parti.
On le garde à l'oreille, on le garde à l'oreille. 2060, c'est donc une nouvelle, donc c'est un genre quand même qui est bien particulier et qui a... En plus, c'était pendant hyper longtemps un peu mal aimé, bah, je trouve, cette forme-là. Quand on conseille en librairie, c'est toujours « Ah, j'aime pas trop les nouvelles ». Alors, je comprends pas trop pourquoi, parce qu'au contraire, on est très vite en fait avec les personnages. On est souvent sur une dynamique et on y va rapidement. Donc, quand on adore lire et qu'on aime voilà, avoir des imaginaires hyper développés rapidement, ça marche vraiment très bien. Là, on l'a entendu, donc Élise Thiébaud est venue te chercher, et donc je suppose que tu n'avais pas eu le choix sur le format.
Non, il est sorti comme ça, le livre. Alors, est-ce que ce n'est pas précisément une novella ? En France, on n'emploie pas beaucoup ce terme, mais je sais que quand je suis en train de parler avec des personnes d'ailleurs, par exemple en Belgique, ou en Espagne, où voilà, le mot de novella est un peu plus reconnu comme grande nouvelle ou petit roman. Voilà, on est sur 80-100 pages. Donc, et non, ça, il est sorti comme ça. Il avait cette longueur-là. Et c'est aussi pour ça qu'avec Élise, on s'est dit, bon, il est déjà conçu pour paraître chez Nouvelle Lune parce qu'il a déjà le bon format. Quoi. J'aurais pas pu le faire plus long.
Bah, d'autant que, bon, bah, on va... quand même parler un petit peu du sujet, hein. Alors attention, spoiler un tout petit peu, on essaye de respecter
c'est
au maximum, mais là c'est un peu difficile de rester vraiment dans le secret total. Mais en fait tu vas faire découvrir la dernière journée de ton héroïne, qui est donc la dernière journée parce qu'on est en train de parler de fin du monde directement. Elle évidemment ne le sait pas que c'est sa dernière journée, et tu vas comme ça en fait travailler, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, les notions de temps, sur ces deux notions-là, c'est-à-dire la journée qui passe, 8h, 9h, 11h, etc. Et tous ces souvenirs qui nous rappellent toute la vie qu'elle a déjà menée, ce travail du temps qui passe, on sent bien, ton personnage, il a 80 ans, donc il a eu une vie quand même bien remplie et bien longue. Enfin, elle a eu une vie bien remplie et bien longue. Ton rapport au temps, à cet endroit-là précis des engagements, de ce que ça va faire de nous, en fait, tout ce temps qui est passé, toutes ces luttes, c'était, j'ai l'impression, quand même un peu le noyau dur de ton écriture, de ton intuition, peut-être.
Oui, il est beaucoup question de temps, effectivement, dans ce livre. En tout cas, l'idée est partie vraiment de cette date, 2060, que j'ai choisie parce que... vous devez, comme moi, entendre les rapports du GIEC régulièrement, et la date qui apparaît le plus souvent, c'est 2050. C'est vraiment la date au-delà de laquelle on a l'impression que bon, bah, ce sera foutu, quoi, ce sera fini. Et sauf que bah, on sera probablement encore là, mes enfants seront encore là, donc on se projette dans l'âge qu'on aura à ce moment-là. Donc effectivement, il y a une projection vers le futur. Je pense qu'il est venu aussi de l'exercice que j'étais en train de faire avec l'essai d'Alary, où j'essayais de créer, d'imaginer un futur féministe. Et puis il y a ce petit geste que j'ai fait dans le livre. En fait, chaque heure de la journée la renvoie à une décennie de sa vie. Donc en fait, il y a l'enfance quand elle a 10 ans, il y a sa vingtaine qui est un petit peu plus subrepticement évoquée ici et là. Et c'est aussi l'idée du changement, de l'apprentissage, de la progression. C'est-à-dire qu'on a face à nous une femme de 80 ans qui est... On comprend quelles sont ses valeurs en regardant comment elle vit, on comprend où est-ce qu'elle est arrivée, mais c'est toujours important de mettre en perspective le parcours qui a permis d'arriver quelque part. Donc on assiste aussi à des périodes où elle était peut-être moins stable, moins sûre d'elle, où elle a eu plus de difficultés, plus de colère. Voilà, on explore tout ça pour comprendre comment elle est arrivée là.
Mais c'est vrai que je me souviens quand je l'ai lu et qu'on en a un peu parlé sur les réseaux, tout de suite en fait je me suis assez emballée, je me disais oh là là mais c'est toi en fait, je l'ai projeté en fait sur ce qui deviendra, etc. Et pour moi c'était vraiment un énorme compliment, enfin c'était quelque chose où je me disais j'adore cette projection, j'adore. Et je t'ai entendu en parler ou lu et je trouvais que de temps en temps t'étais un petit peu dure avec ton personnage, que tu l'aimais pas forcément en entier, etc. Et de ce fait, j'ai eu un petit moment de « Ah mince !» alors que je lui ai dit que je l'adorais, elle l'aime peut-être pas autant que ça. Et donc cet endroit-là d'un personnage qu'on va créer, qui bon, on le lit, elle a beaucoup de points communs, en tout cas sur certains sujets avec toi. Évidemment, on ne connaît pas toute ta vie, et on ne connaît pas toute ta vie jusqu'à ces 80 ans-là, donc on... La fiction joue son rôle aussi, mais pour autant, on sent que elle est investie, elle est entière, elle est pleine en fait ce personnage. Donc, qu'est-ce que ça te fait à toi quand je te dis j'ai l'impression de te voir à 80 ans?
Bah, après, je pense que ça fait ça à tout le monde. Et puis voilà, je vais avoir 80 ans en 2060. Enfin bref, les projections sont quand même assez faciles à faire. Elle est seule hein, quand même. Elle est très seule. Hein. Elle est assez triste en fait. En tout cas, elle porte un poids suffisamment lourd de mélancolie pour. Je ne vais pas spoiler le livre, mais voilà, elle traîne quand même quelque chose d'une profonde mélancolie, d'une fatigue de la vie contre laquelle elle a lutté un peu toute son existence, mais qu'elle se traîne encore à ce stade-là de son existence. Mais surtout, elle est très seule en fait. Et toute sa vie, ça a été une succession d'abandons en fait. Elle a rejeté beaucoup les personnes. Qu'elle aimait et qu'il aimait, à commencer par ses enfants. Donc non, j'ai pas envie d'abandonner mes enfants. et j'essaye d'apprendre à accepter l'amour, à me débarrasser de choses dont elle est habitée, qui font pas forcément que du bien dans ma vie. Donc en fait, et puis en plus, ce personnage, je l'ai écrit sur 4 ans. Donc j'ai commencé à l'imaginer en étant à un endroit où j'étais plus quand j'ai fini le livre. Donc c'est aussi, il y a une espèce d'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire que l'histoire de sa progression, c'est aussi l'histoire de moi qui écrit et qui change et qui travaille et qui comprend des choses. Donc il y a énormément de traces en fait, des mois successifs qui apparaissent dans ce personnage. Donc oui, évidemment que c'est moi. Mais je ne veux pas finir toute seule.
On ne te le souhaite pas du tout. Après, peut-être que moi, je l'ai accueilli avec peut-être plus de... Alors, peut-être que douceur serait le mot, mais dans le sens où, en fait, je comprends l'endroit où elle peut être et que moi, je n'ai pas vécu cette rupture familiale comme un abandon. Je l'ai juste vécu comme une nécessité.
Ouais.
Et donc, ce qui fait que quand elle se souvient de son fils et de sa fille et qu'elle leur souhaite d'aller bien et qu'elle a ses... Enfin, je ne l'ai pas entendu ou lu comme une déchirure. Je me suis dit, bah, c'est comme un baume, en fait, où elle se dit, ils ont pu vivre leur vie et au final... Cette vie-là n'est pas peut-être si éloignée de moi que par certains engagements, notamment avec son fils,
ouais.
Dont on a des preuves. Mais y a, à chaque fois de ces ruptures-là, Je pense que moi, j'ai pris le parti de me dire « ça s'est bien passé, c'est là où elle devait être, en fait. »
Mais en fait, c'est presque une leçon pour moi, parce que c'est un personnage imparfait quand même, qui fait beaucoup d'erreurs, qui trahit aussi à un certain moment dans le texte, qui se met en colère, qui est loin d'être parfaite. Et peut-être que finalement, ce que tu es en train de me dire, et c'est ce que je ressens aussi dans les retours de lecture que j'ai, c'est qu'en fait, les gens l'aiment bien, quoi, avec ses imperfections. Justement, je pense même que c'est le fait qu'elle soit pas une héroïne impeccable sur tous les plans moraux, intellectuels, etc., qui fait qu'elle est attachante et qu'on l'aime bien. Et du coup, ça me fait prendre conscience du fait que moi, j'ai peut-être un regard dur sur elle, qui ressemble un peu au regard dur qu'on peut avoir sur soi-même, où parfois, on se traite de conne, on s'énerve contre soi, et on se rend compte que les gens autour, non, en fait, acceptent aussi nos failles et nos vulnérabilités. Donc, je crois que ça raconte aussi un peu ça, ce décalage de regard qu'on peut avoir sur elle.
Mmh. Oui, et puis, il n'y a rien à faire. Écrire une femme de 80 ans, ce n'est pas anodin, ouais. Parce que ce n'est vraiment pas un personnage qu'on croise beaucoup, que ce soit en fiction en général, mais surtout pas en littérature. Et là, dernièrement, on a eu la grande chance d'avoir des rééditions d'œuvres du matrimoine, où on se rend compte que les autrices du début du XXe écrivaient beaucoup plus des personnes plus âgées, mais comme leurs œuvres ont disparu, on ne le savait pas, en fait. Mais il y a ce truc aussi de lire quelque chose comme ça d'un personnage qu'on pourrait d'une certaine manière toute devenir. C'est à partir du moment où on est engagé dans les luttes, en fait il y a plein de thématiques qu'on va croiser pour lesquelles on se bat là maintenant, en fait. Et quand elle croise des communautés de femmes, quand elle croise la justice, quand elle croise la radicalité, quand elle, c'est des choses qui nous sont pas si éloignées, mais qui en même temps on a un peu l'impression de se dire « Ah, mais si je continue comme ça, ça va peut-être devenir comme ça, en fait. » C'est une sorte de... Mais c'est hyper agréable d'avoir l'avenir face à soi. J'allais dire futur, mais ça aurait été vraiment...
Ouais, puis c'est un avenir qui est très proche, en fait. Hein.
Mais c'est ça.
C'est aussi... moi, ça m'a moi-même surpris de me rendre compte que finalement, j'avais qu'à dérouler une pelote pas si longue, quoi, pour arriver à 2060. Le point de départ, enfin la projection, je commence vraiment à imaginer la suite à partir de 2027 plus ou moins dans le livre. 2027 c'est après-demain. Je pense que l'actualité politique du jour nous laisse quand même présager de belles batailles qu'on va remporter, évidemment. On va pas laisser l'extrême droite prendre le pouvoir. Mais c'est aussi ça qui est intéressant dans l'exercice de la dystopie, et c'est ce qu'ont beaucoup raconté les autrices féministes comme Margaret Atwood, c'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est de la science-fiction, que c'est un grand exercice d'imagination, alors qu'en fait c'est pas du tout ça, c'est au contraire un exercice d'absorption du réel. Et qu'est-ce qui se passe si on pousse le réel, si on tient compte des rapports du GIEC, si on tient compte de l'évolution de la démocratie en France ces dernières années, si on tient compte de la situation sur les droits des femmes, etc., on arrive à une sorte de réel dérivé du réel, d'un futur réel dérivé du réel actuel, qui est malheureusement pas complètement imaginaire, quoi.
Mais là ça me faisait beaucoup penser à cet endroit de l'anticipation où, ouais, en fait ça te trouble suffisamment parce que vous mettez les petits indices qui font qu'on s'y reconnaît, qui font qu'on n'est pas dans de la science-fiction, on ne te dit pas c'est un autre monde, c'est une autre vie. Là typiquement il y a des endroits de... Voilà, on sent bien que ça nous pend au nez, en fait, ça va arriver. Et notamment sur la question écologique et toutes ces urgences climatiques, il y a vraiment... Enfin, t'as fait un sacré travail de projection, de se dire, là, on en est là, donc on nous dit ça, et moi, je l'écris comme ça, en fait, ça va devenir comme ça. Donc le rapport à l'eau, le rapport à l'électricité, évidemment, mais à plein d'autres petites choses, à l'alimentation... Enfin, ton personnage, en fait, il est en train de vivre... Mais d'une manière extrêmement, comme tu le disais, réelle. Enfin, tu n'inventes pas des choses qu'on n'imaginerait pas. Mmh. Ça paraît tellement fluide, la façon, en fait, dont cette écologie, ce monde du vivant va être, va aller moins bien, en fait, et voire très mal. Mais en même temps, elle vit pas mal.
Ouais, mais c'était marrant comme exercice parce qu'en fait, c'est vrai que je suis partie vraiment d'un réel qui est la maison où je vis, qui est effectivement au bord de la Seine. D'ailleurs, les personnes qui vivent dans mon village sont tous en PLS parce que j'ai littéralement décrit le village sous les eaux et tout le monde l'a vu parce que j'ai décrit les bonnes rues, enfin la forêt au bon endroit. Donc vraiment, les gens là, genre c'est beaucoup trop graphique ton histoire, Lorraine. Donc j'ai imaginé voilà cette vieille femme dans cette maison et en me disant bon bah ok, à ce stade-là, par exemple, il y aura plus d'eau potable ou ce sera devenu rarissime. Comment elle fait en fait, à quel moment elle boit, qu'est-ce qu'elle boit? Combien de tasses elle s'octroie, est-ce qu'elle se fait du thé? Mais alors, attends, si elle se fait du thé, ça veut dire qu'il faut qu'elle puisse avoir du feu, donc d'où vient le feu? Un des derniers gestes que j'ai fait dans ce livre, je me suis dit, mince, ça fait pas pipi à aucun moment dans la journée. C'est pas possible, je suis en train de suivre pas à pas chaque étape de sa journée, il y a bien un moment où elle fait ses besoins, quoi. Donc j'ai dit, voilà, je me suis dit, bah, elle va dans le jardin, elle se met accroupie dans la terre et elle fait pipi là, quoi. Donc j'ai... En fait, c'était simplement en imaginant, en essayant de pousser au maximum l'exercice de finalement, ce sera quoi de vivre dans des temps tels que j'ai décrit plein de petites scènes. Voilà, elle peut plus prendre de douche, évidemment, depuis très longtemps. Elle se lave avec un torchon au bord de son évier. À moi, est-ce qu'elle a du savon? Je me suis retrouvée à Google comment fabriquer du savon. J'ai vu que c'était très simple, en fait, et que probablement nos arrière-grand-mères le faisaient et que probablement on le refera aussi un jour. Donc voilà, c'est simplement, je me suis dit qu'aussi parfois les rapports du GIEC, les chiffres, les discours de scientifiques et d'experts, c'est parfois un peu aride. On sait qu'il y a c'est terrible, mais le grand public aime pas trop en fait lire dans les médias tous ces articles parce que c'est à la fois extrêmement anxiogène et puis parfois un peu dur à suivre, quoi, les graphiques, toutes les... Bon bah là au moins, quand on décrit des scènes de la vie quotidienne, se laver, se manger, se soulager, et ben ça permet de bien visualiser à quoi ça va ressembler, quoi.
Mmh. Oui, et puis t'ajoutes toute la notion du rituel. Enfin, tu sens en fait, donc c'est 6, 7, 8, 9, 10, enfin chaque heure est rythmée comme ça. Et elle ritualise, donc elle sait exactement là où elle doit aller, ce qu'elle doit faire, les gestes. Et donc il y a d'un côté... En fait, ce principe vraiment, oui, du rituel, mais aussi toutes les textures qu'elle va rencontrer. Enfin, quand elle va cueillir dans le jardin, quand elle sent la fleur, quand elle passe près du muret. Enfin, en fait, je comprends bien que les gens qui viennent de ce village s'y soient reconnus. C'est, enfin, ou en tout cas, y reconnus leur environnement. C'est qu'en fait, tu remets au cœur des textures, en fait, toute cette histoire. Et il y a la nature, donc on entend bien que c'était un des endroits hyper importants pour toi, mais il y a aussi ce corps. Ouais. En fait, on est vraiment dans la... Enfin, moi, j'ai eu l'impression d'avoir les mains de mon arrière-grand-mère qui sortaient du livre, quoi, et de pouvoir contempler chaque ride, chaque petite faille, en fait, de ce que la vie a laissé. Et enfin, ça crée vraiment une extrême tendresse pour ce personnage, mais vraiment dans toute sa splendeur, quoi.
Je crois qu'elle existe assez fort, hein. Ouais, mais c'est vrai que j'avais, surtout dans le premier chapitre, dans les premières pages, c'est les premières que j'ai écrites, et c'était un petit peu ça le pari de départ, de décrire un corps d'une femme de 80 ans. Parce que effectivement c'était une littérature manquante. Enfin voilà, je me suis dit c'est quand même incroyable, quoi. Donc on n'ait pas plus de personnages de femmes âgées qui sont toujours représentées comme des mamies confitures. Enfin voilà, il y a toujours un truc très... Alors que bon, on vit dans un monde quand même où les femmes de 80 ans, il y en a de plus en plus qui sont en forme, qui font plein de choses, qui ont une vie professionnelle parfois, sexuelle, familiale, politique, etc. Donc ça suffit en fait d'en faire des espèces de fantômes inexistants dans ce monde. Donc je suis partie de cette volonté-là de la faire exister fort. Je voulais qu'elle baise, je voulais qu'elle boive, je voulais qu'elle fasse des choses qui peuvent surprendre alors que non, ça devrait pas. Et c'est passé par la description de son corps. Et en fait, c'était fou à quel point les images me sont venues avec une facilité totale. Parce que moi, j'ai été élevée par ma grand-mère. Enfin, j'ai des parents, hein, mais ma grand-mère était là pour me garder quand j'étais petite. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup vu ma grand-mère, en fait. Et c'est fou, j'ai qu'à fermer les yeux pour revoir les taches, puis les veines qui ressortent énormément sur les pieds, sur les mains, et puis les jambes sèches et griffées et quadrillées de peau. Enfin, tout me revenait. Le ventre arrondi, les seins qui tirent plutôt vers le bas. Et tout ça, je me suis dit, c'est trop important, en fait, de l'écrire, c'est important de le peindre, en fait, ou de le prendre en photo, quoi. Je voulais que ça existe. et que ce soit simplement décrit de façon factuelle et sans jugement, quoi.
Mmh. Oui, et sans sexualiser.
Non, oui.
Parce que en fait, elle va avoir des gestes de caresse, mais qui, en fait, dans ses souvenirs, on va pouvoir imaginer peut-être cette femme-là qu'elle a pu être. Mais en tout cas, à ce moment-là, il y a vraiment quelque chose de la douceur d'être soi. Et quand elle pose la main sur son pubis ou des choses, enfin, on sent vraiment que c'est comme si elle allait récupérer ses battements de cœur, quoi. Sa vie. Et c'est là vraiment, pour le coup, encore plus rare, en fait, d'avoir des corps de femmes racontées qui ne sont pas toujours sexualisées, en fait.
Ouais, et puis elle en prend soin de son corps aussi, c'est ça qu'on sent, quoi. C'est aussi son dernier compagnon, quoi. Elle a aussi appris à l'habiter. On comprend aussi que la succession de traumatismes qu'elle a vécu dans sa vie, on fait qu'elle était un peu dissociée, en fait, pendant toute son existence. J'ai essayé un peu de décrire ça aussi. Enfin, c'est quelque chose qu'on est nombreux à ressentir. Parfois, on est à côté, quoi. On n'est pas dans l'instant présent, on agit de façon un peu mécanique, on oublie son corps, et puis on se retrouve après avec des douleurs, on ne comprend pas d'où elles viennent. C'est le corps qui fait « Bonjour, j'existe !» et voilà, et on va voir un ostéo, et on ne comprend pas que ça vient de notre façon de vivre. Donc elle, au moins, elle arrivait à ce stade-là où elle a compris que son corps, c'était son compagnon, c'était son vaisseau, c'était comme un vaisseau qu'elle doit soigner, et donc elle fait du sport. Et ça, pareil, je sais qu'il y a plein de femmes de 70-80 ans qui font du sport, qui font attention à garder leur souplesse, et donc elle fait du sport, elle l'observe, elle est encore attentive aussi à sa faculté à avoir un orgasme, elle est sensible aussi au goût des choses qu'elle mange, donc pour le coup, elle est là, elle est ancrée, elle est dans son corps, et c'est peut-être la plus grande réussite de sa vie, en fait, au fond. C'est-à-dire qu'elle a fini par se réconcilier avec elle-même, et c'est passé par la réconciliation avec son corps.
Et d'être extrêmement dans le moment présent. Ouais. Alors après, elle ne se doute pas 5 minutes que nous, on fait le décompte, en fait, qu'on a compris dès le début qu'elle vivait ses dernières heures.
Mais tu sais que les avis divergent, et même au sein du Diable Vauvert, il y a une correctrice qui pense qu'elle sait, et qu'elle fait exprès de l'ignorer, et d'autres qui pensent qu'elle ne sait pas, et qu'elle est juste, voilà... Et j'ai pas envie de trancher, j'aime bien que cette ambiguïté flotte un peu. Parce que je pense qu'elle sait inconsciemment, en fait. Elle sait pas, mais elle sait.
Oui, c'est ça. Bah, c'est que les éléments autour d'elle, il y a un moment donné, créent un sens, quand même. Et qu'il y a des choses bougent. Mais autant, toi, tu vas te permettre, dans la narration, de faire des petits commentaires, parfois, qui nous... Peut-être nous, en tant que lectrices, nous font prendre conscience de ce que ça a changé, certains caractères, des oiseaux qui disparaissent, ou parce qu'on sait très bien que quand les catastrophes arrivent, les animaux sont typiquement les premiers à le voir. Et le chat, il y a des petites choses comme ça, mais elle continue sa route, en fait. Elle fait son rituel, elle va de base en base, en fait, comme ça. Et c'est peut-être là, au fur et à mesure de la journée, la profondeur de ses souvenirs qui, en effet, va nous montrer qu'elle va vraiment loin, en fait. Elle va refaire un peu tout le trajet. Peut-être que c'est là où ça pourrait nous donner un indice qu'elle se doute un peu, je sais pas, peut-être. Moi, en tout cas, je pensais qu'elle savait pas du tout.
En fait, ça vient d'une phrase que je sais pas, cette phrase, je voulais jamais l'enlever. Elle dit « C'est le dernier matin du monde et elle a d'autres chats à fouetter ». Et en fait, ça peut vouloir dire les deux, quoi. Ça peut vouloir dire elle décide de s'occuper de choses plus importantes, comme ce qu'elle va manger à midi et comment elle va pouvoir irriguer son jardin alors qu'il fait très sèche, c'est très sec. Ou alors, ça peut vouloir dire aussi qu'elle s'en fout, quoi. Mm. Elle dit, whatever. Et voilà, j'aime bien... On peut envisager les deux.
C'est ça. Mm. Bon, t'en as déjà un tout petit peu parlé avant, mais alors il va y avoir 2027.
Ouais.
Dans 2060, il y a 2027.
Ouais.
Et quand on voit cette semaine ce qui s'est passé, on se dit, intéressant, puisque donc en 2027, dans 2060, l'extrême droite prend le pouvoir. Et donc, elle va d'une certaine... Oui, c'est ça, on est en 2023 pour les archives, notons bien quel jour nous parlons. En fait, ça, évidemment, on en avait déjà parlé dans Futur, le fascisme, enfin, en tout cas, la place qui est de plus en plus importante du fascisme en France, etc. Mais pour autant, entre le dire dans un essai et trouver des preuves, etc., et en même temps l'imaginer dans une fiction, c'est aussi lui faire de la place dans nos imaginaires. C'est-à-dire, oui, on peut théoriquement le comprendre, mais pratiquement, la fiction, elle nous aide quand même à se dire « Ah oui, en fait, ça pourrait devenir comme ça. » Cet exercice-là est en peu de temps, parce qu'encore une fois, on est sur quelques souvenirs, on est sur des petites bribes d'informations. Tu l'as imaginé de manière plus globale et tu l'as resserré. Ouais. Parce que, ben, on se dit « Oui, on pourrait imaginer c'est quoi la catastrophe d'arriver avec l'extrême droite, etc. » Mais en vrai, est-ce qu'on l'imagine vraiment?
Ouais, je l'avais beaucoup plus développé, en fait, tout le background politique. Il y a quasiment tout un chapitre qui a sauté, parce que j'étais en fait, c'est pas la peine de rentrer autant dans les détails. Mais c'est un peu comme... C'est un peu comme tout à l'heure, je vous disais, pour la maison, pour son quotidien. Si on commence à dire, OK, 2027, imaginons que l'extrême droite arrive au pouvoir, mais c'est un exercice qui a été fait d'ailleurs plusieurs fois. Hein. Il y a eu des BD, des livres qui se sont projetés dans cette réalité-là. Qu'est-ce qui se produira? Et moi, ce que je trouve assez fou, c'est qu'on oublie souvent de mettre le fascisme et l'extrême droite, qui est indéniablement en train de prendre le contrôle des médias et des esprits et des assemblées nationales un peu partout en Occident, avec la crise climatique. Et en fait, on sait aussi qu'il va y avoir d'immenses flux migratoires qui vont être engendrés par le fait que de grandes parties, de grandes zones de la planète vont être absolument inhabitables d'ici peu. Il fera 50 degrés dans plein d'endroits. Les humains vont fuir, vont chercher des endroits où il y a de l'eau. Ça va se produire, c'est sûr, c'est écrit. Et je trouve ça dingue, moi, à chaque fois que je vois passer les lois migration, je me dis, mais en fait, ils sont déjà en train de préparer ce futur-là qui est imminent, où notre devoir d'humain serait au contraire d'ouvrir nos portes, de partager notre eau, nos terres, nos vivres, d'essayer de remettre de la vie. Et non, on est en train de vraiment confirmer ce qui est déjà en train d'être fait, c'est-à-dire de laisser les gens couler dans des bateaux de fortune dans la Méditerranée, au fond de la Méditerranée. Et donc voilà, donc j'ai un peu poussé l'exercice plus loin en mettant aussi... J'avais mis un peu de tout, j'avais mis des pandémies, mais j'ai fini par enlever les pandémies. c'était pas forcément la peine de faire un tableau trop précis, parce qu'au fond, je crois que ces idées-là, on les a un peu en tête, quoi. C'est comme une espèce de pensée subliminale qu'on laisse pas forcément s'exprimer, mais qui est là, et qui suffit de tout petit peu réveiller pour qu'elle... Pas surface.
Ouais. Évidemment, je n'ai pas loupé le clin d'œil incroyable à Fatima Wasek avec les dragons. Et il me semble même que tu nommes le Front de Mer, non? Ou tu le dis petit plus comme ça? Je l'ai lu tout à l'heure, mais
je nomme pas le Front de Mer, mais par contre je dis les maires des quartiers populaires.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc tout de suite, évidemment, le ping-pong a marché.
C'est-à-dire que cette question aussi qu'on s'est beaucoup posée ces dernières années au sein du mouvement féministe. Qu'est-ce qui peut marcher? Quand est-ce que ça marchera? C'est pour quand la révolution? C'est une question que j'ai posée à toutes les personnes que j'ai reçues au carreau du Temple ces dernières années. Donc souvent la réponse que j'obtiens, mais c'est maintenant. Genre oui, c'est maintenant, on est en train de la faire, certes, mais quand est-ce que ça bascule, quoi? Quand est-ce que vraiment l'opinion bascule du côté des féministes? On est quand même très loin du compte, on a enlevé la statue de Gérard Depardieu au musée Grévin, plutôt grâce aux touristes étrangers d'ailleurs, vraisemblablement. On est quand même loin du stade où nos idées ont suffisamment infusé pour qu'on les estime dignes d'être appliquées sur le plan politique. Et pour moi, le travail de Fatima Wasak et de Front de Mer et de ces femmes des quartiers populaires qui font coïncider la réflexion féministe avec une réflexion sur la classe et évidemment sur l'écologie, et qui ramènent les choses à leur essence, qui est la vie. C'est-à-dire qu'en fait, on doit se battre juste pour le droit de tous les enfants à vivre, à respirer un air non vicié, à manger des aliments bons pour leur santé, à pas être tués sous les coups des policiers, et le droit pour leur mère de vivre une vie émancipée, sans subir l'oppression à la fois sexiste et raciste que leur envoie la société. Ce combat-là, en fait, pour moi, c'est le combat le plus global possible. En tout cas, Front de Mer et Fatima Wasak et ces deux livres, La puissance des mères et pour une écologie pirate, c'est vraiment des textes où je trouve cette espèce de pensée englobante que j'essaye aussi d'atteindre quand je fais futur, voilà, de tout imbriquer ensemble, parce qu'on peut pas penser toutes ces questions-là dans des silos séparés. Donc je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait marcher? Bah, une vraie grève, un vrai mouvement de révolte qui viendrait des quartiers populaires, qui serait lancé par les femmes des quartiers populaires, pourrait avoir un impact beaucoup plus fort, puisque derrière elles vont avoir toutes les personnes qui viennent des quartiers populaires, et toutes les personnes opprimées, et toutes les personnes qui subissent une quelconque forme d'oppression et qui veulent juste vivre. Donc j'ai imaginé que la révolte prenait enfin grâce à elle, mais pour un court instant, malheureusement.
Après, ce qui est d'autant plus chouette, c'est que Fatima aussi utilise la fiction pour une écologie pirate. En fait, elle termine par réécrire d'une certaine manière toutes ses théories dans un conte. Et donc, je me souviens, quand on l'a reçue, qu'on a beaucoup discuté de ça, de la puissance politique, en fait, de la fiction et de révolutionner nos imaginaires. Pour toi, on va un tout petit peu laisser tranquille notre petite héroïne, notre vieille héroïne, disons le mot. Quelle est la place de la fiction dans tes révolutions? Tu dirais que ça a une place déjà?
En tout cas, elle en a une de plus en plus grande. Je me suis quand même principalement nourrie d'essais ces dernières années. J'avais vraiment besoin de faits, de chiffres, d'analyses, de sciences, de preuves. Je me suis biberonnée à la sociologie. Je pense que ça vient aussi du fait que je suis retournée faire un master en études de genre, en sociaux. Donc c'est des textes moi que je connaissais pas, qui sont rentrés dans ma vie assez tard. J'avais besoin de les aspirer jusqu'à la moelle. Et puis, c'est des textes aussi, qui rentrent dans mon quotidien plus facilement, en fait, qu'on lit pas de la même façon, qu'on lit assis. Enfin, je sais pas comment dire. En tout cas, j'ai surtout consommé de l'essai, de l'idée, de la pensée. Et de plus en plus, je glisse vers la fiction ces derniers temps parce que je commence à me dire que la socio, ça va pas suffire. Et qu'il va nous falloir aussi effectivement de l'imaginaire, de la psychologie, du sensible, des narrations, des histoires, pour arriver à justement imaginer quelque chose qui fonctionne vraiment. C'est-à-dire que les idées et les faits peuvent structurer, mais le bâti, le toit, c'est forcément plus de la chair, quoi. Et donc voilà, et le paradoxe de la fiction, c'est que c'est plus éloigné du réel, par définition, puisque c'est quelque chose qui est inventé. Mais comme tu l'as dit au sujet de 1060, ça permet de faire rentrer du sensible, quoi, du corps, du souvenir, du trauma, de l'imperfection. Et on a vraiment en fait besoin de ça pour affiner notre vision du monde.
Mais c'est qu'on se rend bien compte que quand on parle de ces fameuses, il y a la théorie et la pratique. Alors des fois, je me dis peut-être que c'est la fiction qui doit être au milieu. C'est-à-dire que on voit beaucoup de personnes lire beaucoup et de ce fait s'annoncer comme étant déjà une résultante de ces systèmes de pensée-là. Je suis déconstruit, je suis féministe. et puis au final, dans la vie, en fait, ça marche pas comme ça. Et je me souviens que quand on a reçu Camille Toffoli, qui a fait tout un travail, fille corsaire, où elle est allée en fait chercher, parce qu'elle est universitaire, et elle se dit, en fait, ça veut dire quoi vivre en féministe, en fait? Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire prendre son vélo, c'est soit son vélo contre les voitures, c'est faire du camping toute seule, c'est, elle va tout de suite là-dessus. Mais évidemment, là, c'est des tâches du quotidien, des choses peut-être plus étroites. Mais quand on parle de révolution, ma vie est révolutionnée, ça veut dire quoi dans la vraie vie où on est encore dans un système capitaliste et patriarcal? C'est pas si simple, en fait. On peut faire communauté avec des tout petits noyaux, mais est-ce que c'est peut-être pas suffisant pour imaginer changer le monde, évidemment?
Ouais, et puis pour s'adapter aussi à nos vécus, on a des histoires individuelles, on est aussi imbibé de choses qui sont parfois trop complexes pour rentrer dans les catégories pensées par les essais. C'est pareil pour tout le monde, quoi. C'est aussi pour ça que finalement la narration à la première personne et le fait de faire émerger ce jeu ce que j'ai beaucoup fait à travers mon podcast, à travers la poudre, ça m'a toujours semblé une des meilleures solutions, en fait. Je trouve ça toujours assez incroyable quand... Enfin, là, encore tout à l'heure, il y en a une d'entre vous qui me l'a dit. En écoutant la poudre, j'ai tellement appris, je me suis tellement déconstruite. Alors que la poudre, c'est quand même principalement juste des récits de vie. C'est juste des femmes qui racontent leur parcours. Et tout ce qu'on peut en tirer, en fait, comme réflexion politique, comme moi aussi, ce qui est aussi la structuration même de ce qu'on a vécu collectivement sur le plan féministe ces dernières années, ça a un impact encore plus fort qu'un discours, parfois. Donc, ouais, c'est remettre de la chair.
Oui, c'est ça, ouais. Carrément. Est-ce que tu accepterais, et je suis désolée, je ne te l'ai pas demandé avant, mais de nous lire un petit extrait?
Mais oui, bien sûr.
Parce que quand même... Oui, oui. C'est là, la fiction, c'est le moment où
avec
on peut...
Avec joie, j'aime bien faire ça. Tu veux que je lise quoi?
Bah, le début.
6 heures, levée. Elle n'a plus besoin de réveil. Chaque matin, ses paupières frémissent à l'aube. Elle reste au lit, fixe l'obscurité en essayant de rattraper des bribes de rêve où souvent elle doit fuir. L'hiver, elle met longtemps à s'extraire de sa chambre. Grelottante, elle tâtonne pour trouver le gilet de laine qui l'aide à affronter les courants d'air glacés qui transpercent sa maison. Mais nous sommes en juin, elle est nue, et une lumière cireuse teinte la chambre. Ses pieds, aux ongles épais comme des sabots, se posent sur le parquet. Ses mamelons bleutés effleurent un ventre rond. Sur ses tibias, constellés de taches brunes, courent de fines croûtes de sang tracées par ses errances dans les herbes sèches. Elle saisit sur une chaise une chemise en lin rose et la boutonne en descendant l'escalier. Le grincement des marches est une musique familière. 3 bracelets dorés teintent à son poignet gauche, par-dessus l'encre délavée de ses tatouages. Les plis de ses genoux ressemblent à la tranche d'un livre. Elle n'est pas du matin. Dans la cuisine, le jour l'éblouit. Elle chausse des lunettes aux branches rafistolées de bandages adhésifs, lisse des doigts les mèches rêches qui encadrent son visage. Ses cheveux n'ont jamais consenti à devenir complètement blancs. Ils restent des stries caramel. Leurs pointes, mollement tressées jusqu'au bas de son dos, est jaune comme les doigts d'un fumeur. Elle verse 2 tasses d'eau dans une casserole en émail et craque une allumette au-dessus du réchaud.
Merci beaucoup.
Merci.
Eh bien, bienvenue dans le monde de la fiction, Lorraine.
Merci,
on adore.
C'est vraiment... Son adoubement compte beaucoup pour moi.
La franchise est toujours avec toi. Merci beaucoup.
Merci, Sadie.
Alors, heureuse ? Vous venez d'écouter un nouvel épisode de La Franchie Podcast en compagnie de Lorraine Bastide à l'occasion de la publication de sa novella 2060 dans la collection Nouvelle Lune des éditions Au Diable Vauvert. La Franchie Podcast, c'est Soazic Courbet à la conversation, Pierre-Antoine Naline à l'habillage sonore et Léa Le Faucon pour l'univers graphique. Sans savoir où tu vas. Résiste. Prouve que tu existes. Avec La Franchie Podcast.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.